La troisième conférence, et la dernière, c'est l'amour du couple chrétien pour leurs enfants, fondé dans le Christ. Donc l'amour du couple chrétien pour leurs enfants, fondé dans le Christ. L'amour du couple chrétien pour leurs enfants passe par ce qu'on appelle l'éducation. Donc j'aimerais insister sur la question de l'éducation des enfants. C'est une chose qui me paraît cruciale, surtout à l'heure actuelle. Je ne sais pas si vous connaissez le Paris bénédictin de Roder, qui donc explique que la situation actuelle est une barbarie montante, non pas à nos portes, mais déjà en place. Et il dit en gros que pour sortir de cette barbarie, il faut regarder les bénédictins. Pourquoi les bénédictins? Parce que saint Benoît, au VIe siècle, a connu déjà une barbarie qui était envahissante de son temps. Il a connu des barbares, il a eu affaire à eux. Et face à cette déferlante, qui a anéanti complètement quand même un empire absolument colossal et incroyable, qui est l'empire romain, il est arrivé en quelques siècles à retourner la situation et à sortir l'Europe de la barbarie pour en faire une Europe chrétienne. Et donc, Rode dit que pour sortir de cette barbarie, il faudrait peut-être regarder du côté des monastères bénédictins pour voir comment ils s'en sont sortis, comment ils ont pu justement retourner cette situation à partir d'une règle qui est la règle de saint Benoît. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand je pose la question à des personnes, comment vous voyez l'avenir, si vous projetez dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, comment vous voyez l'avenir? Et j'ai des jeunes mères de famille qui m'ont répondu, mais mon père, moi quand je me projette dans l'avenir, quand je vois déjà le temps présent, je me dis que franchement, peut-on mettre des enfants au monde? C'est la réaction d'un certain nombre de parents qui paniquent face donc à une situation qui est inquiétante. Et donc c'est tout le problème de l'éducation. Peut-on mettre encore aujourd'hui des enfants au monde sans leur offrir un monde qui soit dramatique pour eux? Alors, je ne suis pas pour ceux qui disent que forcément tout ira mal. Mais je pense qu'il faut être quand même réaliste par une mutation qui est en train de se faire en Europe et dans le monde. Et donc, vis-à-vis de vos enfants, vous avez un devoir beaucoup plus important, beaucoup plus grave, de bien les éduquer. Parce que on ne peut pas vivre dans un petit couple tranquille en faisant fi de ses enfants. Ce sont le fruit de vos entrailles et ils font partie intégrante de la famille. Quand un de vos enfants ne va pas bien, le couple ne va pas bien. Donc c'est pour ça que j'ai fait un triptyque: Dieu, le centre, la vie contemplative, le regard contemplatif est essentiel pour justement ne pas paniquer. Quand je dis, quand les gens paniquent, je leur dis, mais attendez, à la fin, ça se terminera bien. Je ne sais pas entre maintenant et la fin comment ça va se passer, mais ce que je sais, c'est qu'à la fin, ça se terminera bien. C'est l'espérance. On n'est pas fait pour la terre, n'oubliez pas. On est fait pour le ciel. Le ciel est éternel, la terre est passagère. Peut-être que dans un an, dans 6 mois, certains parmi nous ne seront plus là, seront au ciel. Comme disait Gustave Thibon, je n'ai qu'une seule certitude, c'est que je mourrai. C'est une certitude absolue, pas besoin de la foi pour ça. Donc on est fait pour le ciel. Donc attention, Nous travaillons pour le ciel. Le problème est de savoir, entre le ciel et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. On ne peut pas dire non plus, je travaille pour le ciel, donc je ne fais rien, j'attends que maintenant. D'où l'importance de la chrétienté, qui est un thème extrêmement cher à Don Gérard, que vous avez entendu ce midi. Parce que justement, Don Gérard est un contemplatif et il dit que pour que Dieu soit atteignable au ciel, il faut déjà que Dieu soit présent sur la terre. Et cela passe par le temporel. Donc l'éducation des enfants est cruciale parce que il va falloir, une fois qu'on les met au monde, les conduire au ciel. Et c'est vous qui allez être les premiers acteurs. Mais pas uniquement, parce que la famille n'est pas suffisante pour éduquer, on le sait. La famille n'est pas une constitution qui est suffisante. Il faut également d'autres corps qui complètent l'éducation, même si une mère de famille peut, quand les enfants sont petits, faire quand même l'école à la maison. Après, elle va être vite dépassée. Donc on a besoin d'école, on a besoin de paroisse pour apporter le spirituel. Alors, qu'est-ce que c'est que l'éducation? Le petit Robert dit que c'est une mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement d'un être humain. Ça vient du latin educare ou educere. Educare, ça veut dire faire croître, élever, éduquer. Et educere, ça veut dire tirer de, emmener, enfanter, nourrir, élever. Donc vous voyez que dans ces deux mots-là, qui ont donné naissance donc à éducation, il y a le fait de tirer donc par le haut. L'éducation, c'est l'art des arts. Ars artium, l'art des arts. Car de fait, éduquer est difficile et redoutable. Difficile parce que c'est un art. Or, tout art s'apprend. Un art s'apprend. Et donc, ça demande un effort, une connaissance. Il est également redoutable, car il en va du bien, voire du salut des âmes des enfants. Donc, il ne s'agit pas de se rater. On peut se rater en beaucoup de choses. Dans son travail, dans son emploi, dans sa couture. C'est pas grave. Mais dans l'éducation de ses enfants, on n'a pas le droit. Parce qu'il en va de leur bonheur éternel. Et l'éternité, on ne joue pas avec. Donc l'art des arts. L'art consiste à diriger nos actes vers un bien. C'est-à-dire une perfection d'une œuvre. Alors quand on dit ça, quand on parle de l'art, on pense souvent à l'art plastique. Par exemple, une statue qu'on va sculpter, une peinture que l'on va faire. Tout ça, ce sont les beaux-arts. Mais on oublie aussi que l'art, ce n'est pas que ça. Ce sont également les métiers. Par exemple, il y a un art pour prier. Il y a un art d'enseigner. Et il y a un art pour éduquer. Donc l'art des arts consiste à diriger nos actes vers le bien des biens, qui est Dieu. Vous voyez, atteint la perfection suprême qui est Dieu. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'art des arts. C'est vraiment l'art qui conduit au bien. Alors qu'un bien, je ne sais pas, l'art de construire un ébéniste, par exemple, c'est un artiste. Donc la finalité, c'est que le meuble soit beau. Mais vous voyez que la finalité, ce n'est qu'un meuble, voilà, ce n'est quelque chose de matériel. Tandis que là, dans l'éducation, il s'agit d'amener donc les âmes à Dieu. Et l'éducation donc aura pour but d'amener les enfants vers Dieu, d'amener les enfants finalement au Christ. Alors, le plan que je vous propose, car ceci n'était que l'introduction, donc vous imaginez la suite. Première partie, le Christ, fin ultime de l'éducation. Deuxième partie, le Christ comme moyen de l'éducation. Et conclusion, pas de panique, gardez l'espérance. Première partie, le Christ, fin ultime de l'éducation. Le but de l'éducation des enfants, c'est de les conduire au Christ. Le Christ, bien sûr au ciel, ça j'en ai parlé, mais sur la terre, comment vont-ils atteindre le Christ? Ils vont pouvoir atteindre le Christ par ce qu'on appelle la foi. Or la foi, chez un enfant, est reçue comme une graine qu'on va mettre en terre. Et il va falloir donc mettre de la bonne terre. Première chose, vous pouvez noter, mettre de la bonne terre. Il y a un devoir de mettre de la bonne terre, il y a un devoir d'arroser régulièrement. Ceux qui ont des plantes chez eux, s'ils achètent une plante magnifique avec de la bonne terre, dis chérie, j'ai acheté une plante merveilleuse. Oh, t'as vu comme elle est belle? Et eh bien, au bout de 15 jours, elle est morte. Je ne comprends pas, c'était de la bonne terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a oublié de l'arroser. Donc ça ne suffit pas de mettre de la bonne terre, il faut arroser. Donc on va voir ce que c'est que la bonne terre tout d'abord, et puis l'arrosage. La bonne terre, ça consiste à donner un contexte propice à l'épanouissement de la foi de l'enfant. André Charlier disait, il faut créer des conditions de vie telles que les âmes puissent s'épanouir. Ça c'est une très belle phrase, André Charlier, il faut créer des conditions de vie telles que l'âme puisse s'épanouir. Donc ces conditions de vie, c'est tout d'abord vous, la famille, mais une famille vraiment chrétienne. C'est ça une bonne terre. Quand les familles ne sont pas vraiment chrétiennes, pour les enfants, c'est difficile de bien pousser. Vous comprenez? Après, il faut également des écoles, des bonnes écoles. Vous avez la chance à Versailles d'avoir de bonnes écoles. Vous êtes privilégié, je vous le dis franchement. Dans plein de régions, des parents sont paniqués parce qu'ils mettent leurs enfants dans des écoles ordinaires et c'est un petit peu la catastrophe. Et après, il faut récupérer derrière. Aller récupérer 8 heures d'enseignement bancal sur tous les niveaux. Il faut être très fort. Il faut que l'enseignement soit bon dans les écoles, mais aussi que l'exemple des professeurs soit bon. On enseigne autant par la doctrine que par l'exemple. Après, il faut un cadre spirituel. Vous avez des paroisses. Vous avez aussi dans d'autres endroits des monastères. Donc, des communautés religieuses aussi qui peuvent, c'est vrai, aider spirituellement. Beaucoup de familles maintenant, carrément, sont obligées de choisir des lieux où ils ont à la fois l'école et à la fois le lieu spirituel. Et donc les pères sont obligés de voir ça en premier et après ils choisissent leur travail en fonction de cela. Ce fait qu'il y a des célibats géographiques, c'est pas l'idéal, c'est certain, mais ils se rendent compte qu'il faut absolument une bonne terre. Parce que nous sommes, encore une fois, dans un pays de barbares. Non pas de barbares au point de vue de la violence, encore que venez à Carpentras, vous ne serez pas déçus. Donc, ou à Avignon, il y a l'ambiance, surtout le soir. Donc, mais voilà, donc barbares surtout au niveau des mœurs. Avec une, là, je pourrais vous en parler pendant des heures en tant qu'aumônier de jeunes, de tout ce qui est du web et tout ça. Mais c'est affolant, quoi. Moi, je suis affolé par... Tout ce qui se fait par ces trucs-là. Vous savez qu'il y a une vidéo qui vient de sortir, donc c'est un extrait d'un journal qu'on m'a envoyé, où c'est les grands ponts du web qui témoignent eux-mêmes qu'ils ont desservi l'humanité. Donc, et eux-mêmes mettent leurs enfants dans des écoles sans écran. De la folie, quand même. Des gens qui... donc, ont œuvré toute leur vie à ça depuis 30 ans, maintenant, eh bien, font exactement le contraire. Ils disent surtout pas de réseau pour les enfants. Donc, ils sont conscients de la bonne terre, eux. Et puis nous, on est sur les réseaux, on est en permanence là-dessus, et sans se rendre compte que... Mais eux sont conscients maintenant. Mais nous, il faudrait peut-être qu'on prenne conscience aussi, et notamment vis-à-vis de la jeunesse, de les aider dans ce domaine-là, parce que c'est très tentant, évidemment. Après, il faut des mouvements porteurs aussi. Surtout quand ils atteignent un certain âge, quand ils sont adolescents, vos enfants vont vous échapper. Vous n'arriverez plus à les contrôler. C'est comme ça. Vous-même, rappelez-vous, quand vous étiez adolescent, vous étiez ingérable. Je me trompe ou pas? Donc, bon, je ne demande pas de témoignage public, mais il ne faut pas l'oublier non plus qu'on a été adolescent. Donc, soyons aussi, voilà, comment dire, pas trop dur et trop exigeant, mais en même temps très réaliste. Et justement, être réaliste, c'est d'utiliser des moyens annexes derrière, qui vont compléter votre éducation à vous, que sont les mouvements de scout, que sont des chapitres qui peuvent exister, ou d'autres, peu importe, mais où ils vont pouvoir recevoir un enseignement par d'autres jeunes ou d'autres éducateurs et des prêtres qui seront exactement votre éducation. Mais là, ils accepteront parce que ça vient de son copain ou ça vient de l'aumônier et non pas de la maman, parce que la maman, franchement, elle est trop ringarde, quoi. Donc, franchement, elle a oublié qu'elle était jeune. Donc, vous voyez, tout ça, ça fait partie des bonnes terres. Maintenant, l'arrosage régulier. L'arrosage régulier, c'est l'enseignement de la doctrine catholique. Certes, les enfants sont de plein pied naturellement avec le surnaturel, mais cela n'est pas suffisant. J'entends les enfants quand ils sont petits. Quand par exemple, vous annoncez le décès d'une grand-mère dans une famille, vous annoncez donc à l'adolescent, je ne sais pas, la fille qui a 15 ans, que grand-mère vient de décéder. Grand-mère vient de décéder. Mais alors là, elle s'effondre complètement et c'est le drame. Et vous dites exactement la même chose à sa petite sœur qui a 5 ans. Tu sais, grand-mère, elle est partie au ciel. Oh, elle est partie au ciel? Ah ben ça alors, elle a de la chance. Ah ben moi j'aimerais bien aussi aller au ciel moi. Mais alors, elle va voir Jésus. Et alors nous, écoute, mon sidéré, l'enfant, de plein pied. Plein pied avec le sang naturel. On me dirait, ben ça suffit. Non, il faut quand même l'éduquer. Et de fait, s'il est plein pied avec le sang naturel, c'est parce que déjà, vous avez donné une éducation chrétienne. Vous saisissez. J'insiste sur le fait que l'enseignement religieux doit être bon sur deux éléments, sur le fond et la forme. Sur le fond, c'est ce qui est enseigné. Il faut que l'on enseigne des choses bonnes aux enfants. Parce que l'enfant, justement, n'a pas de connaissances. Donc, si on lui enseigne des choses mauvaises, il ne sera pas capable de pouvoir... se rendre compte que c'est mauvais. Mais il y a aussi autre chose qui est plus délicat, plus difficile, c'est la forme. Don Gérard disait, la première condition pour servir la vérité, c'est de ne pas la rendre ennuyeuse. De ne pas la rendre ennuyeuse. Si les cours de catéchisme sont rasoirs, si tout ce qui concerne Dieu est rasoir, n'est pas fait avec une véritable pédagogie, c'est-à-dire un sens qui va aider justement l'enfant à comprendre les choses de l'intérieur, eh bien, ça risque de ne pas passer, notamment avec les adolescents. Donc c'est important de vous faire aider pour justement que les enfants soient bien éduqués et de choisir des bons mouvements, des bons prêtres, pour que ça puisse véritablement passer. Je vous conseille aussi de vous appuyer sur des ouvrages qui vont vous aider. Pourquoi ? Parce que quand on prépare les gens au mariage, les fiancés, je le sais par expérience, c'est que souvent on a très peu de temps. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on prépare les gens véritablement à recevoir le sacrement. Mais la question de l'éducation des enfants, en fait, on ne le fait pas, parce qu'on n'a pas le temps. Et donc, si vous ne le faites pas après donc, le mariage, eh bien, vous ne serez pas formé là-dessus. Donc, ça s'apprend. Encore une fois, c'est un art. Donc, par exemple, il y a un livre qui est excellent, c'est « Sur le genou de maman ». Je ne sais pas si vous connaissez, par Monique Berger. Ça, c'est pour les tout-petits. Hein. Voilà. Après, vous avez du père Emmanuel Duménil-Saint-Loup, « Lettre à une jeune mère de famille sur la foi ». Donc ça, c'est sur l'importance de la nature de la foi. Il est important aussi d'expliquer la messe traditionnelle. Nous avons la chance immense d'avoir un rite qui est très porteur, qui est très riche. Mais pour ça, il faut savoir l'expliquer aussi aux enfants. Les enfants aiment justement tout ce qui est rituel. Combien de familles m'ont dit, c'est surprenant quand on va donc à des messes avec la forme ordinaire, nos enfants, ça part dans tous les sens. Et là, la forme extraordinaire, pourtant c'est en latin, mais ils sont beaucoup plus captivés. Et oui, pourquoi ? Parce qu'il y a tout un symbolisme, les enfants aiment voir, entendre, et donc ils saisissent davantage. Donc c'est important, voilà, de leur expliquer donc la messe traditionnelle, et surtout aux adolescents, il faut leur expliquer correctement cela. De façon à ce qu'ils ne disent pas « moi je suis tradit parce que mes parents sont tradis ». Mais moi je suis tradit parce que cette messe a des valeurs qui sont plus porteuses que la forme ordinaire. Ce n'est pas pour rien que le cardinal Ratzinger, Benoît XVI, donc, voulait la réforme de la réforme. C'est parce qu'il y avait un problème dans la réforme et qu'il fallait réformer la réforme, précisément. Alors, il est important, si justement on veut conduire les enfants au Christ par la foi, de se rappeler ce qu'est la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi ? La foi, si on prend la définition de la foi d'une façon très générale, c'est le fait que l'intelligence adhère avec certitude à quelque chose qui n'est pas évident pour l'intelligence. Si je vous demande, est-ce que vous croyez à l'existence de cette baffe ? Vous me direz, ben, oui. Pourquoi ? Parce que vous la voyez. Maintenant, si je vous pose la question, est-ce que vous croyez à l'existence de Napoléon ? Vous croyez à l'existence de Napoléon ? Non, visiblement, vous n'y croyez pas. Dommage pour vous, peut-être. Mais je vous certifie, il a existé. Vous l'avez déjà vu, Napoléon ? Vous l'avez rencontré, peut-être ? Non, non plus. Et pourtant, vous êtes certain qu'il existait ? Vous êtes certain ? Mais comment vous pouvez être certain l'existence de quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré? Vous posez un acte de foi. Votre intelligence adhère à quelque chose qui n'est pas évident pour l'intelligence en raison d'un témoin qui, lui, a l'évidence. L'historien, en particulier. Est-ce que vous croyez, par exemple, que 9 planètes tournent autour du Soleil? Vous savez, j'en sais rien. C'est possible, hein. Mais pour ceux qui se connaissent un petit peu, ils vont dire, bah oui. Est-ce que vous avez vu les 9 planètes ? Bah non. Et comment vous pouvez croire à ça ? Tout simplement parce que, bah, y a des scientifiques qui ont des lunettes pas des lunettes comme ça, hein. Donc, mais qui peut voir et qui est dans les observatoires et qui peuvent attester et nous faire confiance. Donc on passe son temps à poser des actes de foi. Si je vous dis, par exemple, finalement, leur sainte est supprimée. Vous me croyez ? Vous ne croyez pas, vous avez raison. Je ne suis pas un témoin fidèle. Mais, donc, voilà, évidemment, c'est un exemple qu'il ne faut pas prendre. Donc, mais vous voyez qu'en fait, on passe quand même son temps à poser des actes de foi. Au point de vue religieux, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe la chose suivante. C'est-à-dire que vous allez adhérer à des choses qui sont d'ordre non plus naturel, mais d'ordre surnaturel. Donc, je vous fais un petit schéma. Donc, d'un point de vue naturel, l'intelligence adhère donc à des choses qui sont d'ordre naturel, dans l'acte de foi, parce que vous faites confiance à un témoin qui, lui, à l'évidence, est un historien, donc il peut avoir accès donc, à tous les éléments, ou qui est un scientifique qui a tous les appareils pour voir. Maintenant, d'un point de vue religieux, on va vous demander de croire à des choses qui sont d'ordre surnaturel. Non plus naturel, mais surnaturel. Au-dessus du naturel, surnaturel. Vous me suivez. L'intelligence va arriver et va dire maintenant, il faut croire à ça. Par exemple, du style que dans une hostie consacrée, il y a Dieu. Là, pour que l'intelligence adhère, ça devient compliqué. Parce que c'est d'ordre surnaturel. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'intelligence adhère à cela ? Il faut que Dieu mette dans l'intelligence une vertu infuse, surnaturelle, de foi, qui va élever l'intelligence au niveau surnaturel et qui va permettre d'adhérer aux choses surnaturelles. Dans l'acte de foi naturel, quel est le rôle de la raison ? C'est pas de pouvoir vérifier si Napoléon existait, parce que ça on pourra pas. C'est pas de vérifier par nous-mêmes s'il y a bien 9 planètes qui tournent autour du Soleil. C'est de vérifier que l'historien est bon. Quand vous achetez un bouquin, qu'est-ce que vous faites ? Un bouquin d'histoire ? Bah, vous me direz, bah, on achète un bouquin, je regarde le prix. D'accord. Donc, mais vous pouvez regarder autre chose de plus important qui est l'auteur. Et à partir de l'auteur, là, Jean Sévilla, ok, je prends. Donc, quand je dis ça au hasard, hein, je n'ai aucune publicité et toute ressemblance avec les personnes ici existantes est tout à fait fortuite. Donc là, Jean Sévilla, pas de problème, j'achète. Pourtant, il nous raconte des trucs qu'on ne peut pas vérifier. Hein. Il faut vraiment faire confiance. Hein. Ça part dans tous les sens. Il y a juste un sujet, il y a des livres qui sortent tous les mois. Non, je plaisante. Mais, donc, c'est assez impressionnant. Mais là, voilà. Donc, on peut faire confiance. Donc, le rôle de l'intelligence, c'est de vérifier que le témoin est donc, authentique. Dans l'ordre surnaturel, c'est le même problème. C'est-à-dire que pour croire à, par exemple, qu'il y a une hostie qui a Dieu dans une hostie ou qu'il y a une trinité, le témoin, ça va être qui ? Ça va être Jésus-Christ. Jésus-Christ va donc s'incarner sur la terre pour nous révéler un certain nombre de choses. Et pour justement que nous puissions le croire, il va faire des miracles. Les miracles, c'est pas pour le fun. Notre Seigneur n'a pas besoin de ça. Pourtant, le démon va le tenter. Il dit, jette-toi en haut du temple. L'autre dit non, ça va. Donc, le rôle de l'intelligence dans la foi, ça va être, dans la foi religieuse, ça va être de vérifier que le Christ n'est pas un imposteur, qu'il a bien existé d'un point de vue historique, et également qu'il est Dieu. Et c'est précisément pour ça qu'il fait des miracles. C'est pour pouvoir, donc, nous prouver qu'il n'est pas un homme ordinaire et qu'il est Dieu. Si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à mes œuvres. À partir de ce moment-là, eh bien, on peut avoir confiance. Car s'il est Dieu, il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Mais cela ne suffit pas encore. Ça, c'est le rôle de l'intelligence. Il faut quand même, parce que justement, l'objet n'est plus d'ordre naturel, il est dans le surnaturel, qui est cette fameuse grâce de la foi, vertu de la foi plus exactement, infuse, qui va élever l'intelligence au niveau surnaturel et qui va permettre d'adhérer avec certitude à tout ce que notre Seigneur nous a enseigné. Dans notre monastère, nous avons le fils d'André Figueras, qui s'appelle le père Raphaël. André Figueras est peut-être connu de vous, il est décédé il y a un certain nombre d'années, qui a écrit pas mal de livres, un catholique bien engagé, et il n'avait pas la foi. Il allait à la messe parce que sa femme allait à la messe. Il suivait sa femme, normal. Et puis, il était convaincu quand même que, un petit peu comme Maurras, du bien fondé de la religion catholique. Mais il n'avait pas la foi. Et à Saint-Nicolas du Chardonnay, je crois que c'était là, c'est là où il allait à l'époque, en assistant à la messe, il a reçu tout d'un coup d'un seul la grâce de la foi. Donc vous voyez, son intelligence, il a fait le travail. C'est-à-dire qu'il était convaincu que Jésus-Christ avait bien existé, qu'il était Dieu. Il croyait aux miracles, tout ça, il croyait tout ça. Mais il n'arrivait pas. Parce que ça dépasse la capacité humaine. Donc vous voyez qu'il y a deux choses très importantes dans la foi. Il y a le rôle de l'intelligence humaine, qui est de vérifier donc l'authenticité du témoin, en l'occurrence du Christ, parce que c'est lui qui vient révéler. Et puis, il y a l'action divine, qui est absolument indispensable pour élever l'intelligence au niveau surnaturel et pour qu'elle puisse adhérer. Et il est sorti de l'église de Saint-Nicolas en ayant la foi, alors qu'il était rentré sans avoir la foi. Et ça, vous avez Claudel aussi, vous avez plein qui sont convertis comme ça. Vous voyez, le rôle donc de la foi. Mais une fois qu'on a la foi, il faut poser des actes de foi. Ceci est important, c'est un des moyens justement. Je vous ai dit que pour l'enfant, il a la foi comme une graine qui est mise en terre au moment de son baptême et qui après va grandir. Quand il va avoir l'arc de raison, il va être en mesure de poser des actes de foi. Il avait la foi, la vertu de foi, mais il va être capable de poser des actes de foi. Et donc là, il va falloir lui enseigner précisément tout ce qu'il faut connaître dans toute la révélation. Mais pour cela, comme je vous disais tout à l'heure, il faut que l'enseignement soit bon. Et puis également, il faut que les parents soient crédibles. Il faut que vous-même, vous soyez formé. Ne comptez pas uniquement sur l'abbé Leroux ou d'autres prêtres ou des écoles. Si vous n'êtes pas capable de répondre aux questions de vos enfants quand ils vont grandir, ils se diront « à quoi bon ?» Mes parents ne savent pas. Je vous donne un exemple. Des amis d'enfance étaient venus me voir un jour, des anciens UCF qui étaient très bien formés, c'était mes animateurs, et j'étais impressionné par leur formation. Ils sont venus voir avec leurs enfants, il y en a un enfant qui devait avoir 10 ans. Et je lui demandais, où est-ce que tu vas à l'école? Moi je vais à Albert Demain. Moi j'étais aussi à Albert Demain. Et c'est bien Albert Demain? Oui, c'est pas mal, mais c'est pas vraiment très catho et tout. Parce qu'il nous a enseigné que l'évolutionnisme, c'était l'explication, tout ça. Alors moi, j'ai raconté ça aux parents. Et mes parents m'ont expliqué qu'en fait, il y avait un problème. C'est qu'il y avait pas, on n'avait pas trouvé découvert, on n'a pas découvert le chaînon manquant. Alors moi, je suis retourné à l'école et je dis à maîtresse, mais l'évolutionnisme, c'est qu'une opinion, c'est pas du tout fondé, parce qu'on n'a toujours pas trouvé le chaînon manquant. Mais j'ai trouvé ça super. L'enfant se posait une question, ou du moins il avait un mauvais enseignement. Les parents étaient capables de corriger. Si les parents disent tout le temps va demander à l'abbé Leroux ou va demander à ta maîtresse et autres, les enfants vont se dire la foi catho, c'est bien, mais mes parents visiblement ne sont pas très très bien formés. Est-ce que c'est vraiment fondé la foi catholique? Il faut que les parents soient formés, quoi. Donc vous avez une responsabilité. Alors paniquez pas, vous ne savez pas tout et c'est normal. Mais par contre, ce que vous devez faire, c'est avoir les références, soit des personnes qui sont capables de vous renseigner. Dis donc, monsieur l'abbé, mon enfant a posé une question là, vous pourriez me donner la réponse, et puis pouvoir donner la réponse, ou des livres également, ou des sites. Saint-Pierre disait, il faut être capable de rendre compte de l'espérance qui est en nous. Alors, comme livre aussi pour la formation de l'éducation des enfants, vous avez les 9 fondamentaux, vous connaissez peut-être, les langages de l'amour chez l'enfant. Donc ça, je pense qu'on peut demander justement à l'abbé Leroux ou à d'autres, vous trouvez ça sur Internet. Et il y a aussi un danger qui existe, et qui existe à Versailles, qui existe différemment ailleurs. C'est un équilibre entre la sous-protection et la sur-protection. La sous-protection, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de protection face à un danger d'être perverti par le monde. C'est-à-dire que vous mettez vos enfants dans des écoles qui ne sont pas bonnes, vous avez une paroisse qui est limite, les sermons sont pas très fiables, donc il y a une sous-protection. Et donc là, il y a un danger réel. Donc il faut absolument, c'est pas le cas à Versailles, parce que là, je dirais, c'est peut-être le phénomène inverse, mais là, il faut absolument combler cela en envoyant les enfants, pardon, faire des camps, dans des camps de la fraternité ou d'autres instituts ou autres, qui vont contrebalancer ce manque de protection. Mais vous avez aussi un autre danger qui est la surprotection. C'est-à-dire que, en fait, les enfants vont être dans un milieu où ils seront toujours entre eux, sans aucun contact avec le monde extérieur. Et ce qui fait que, quand ils vont arriver à l'âge d'adolescents ou de jeunes adultes et qui vont aller faire des études en université ou ailleurs, donc ce ne sera pas des bonnes écoles catho, voilà, jusqu'à la terminale, ils ont toujours été surprotégés, et bien là ils se prennent une claque monstrueuse. Dans le sud, on a ce problème là notamment avec des collèges, des lycées qui sont tenus par des dominicaines. Je pense à Aix, il y a un certain nombre de filles qui arrivent, notamment dans le cadre de la Fraternité Saint-Pédis, il y a donc des dominicaines enseignantes qui donnent un très bon enseignement, qui est bon, bien catholique et autres, et avec des bonnes familles aussi, très tradies. Et quand elles arrivent en fac à Aix, les autres catholiques qui sont pas comment dire, de la Fraternité Saint-Pédis, qui ont eu peut-être un peu plus de contact avec le monde, nous disent, les filles réagissent de deux manières. Soit face au monde, donc à ce qu'elles découvrent en fac, eh bien, elles sont hyper choquées, et donc elles se replient complètement sur elles-mêmes, et donc c'est des filles complètement fermées, et qui fréquentent personne, qui parlent à personne, soit elles sont séduites par le monde, et en l'espace d'un an, deux ans, eh bien, on les retrouve complètement éclatées, les filles, et faire n'importe quoi. Donc, tout le problème que l'on a dans l'éducation à l'heure actuelle, c'est que on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Donc, il faut protéger les enfants suffisamment du monde, et en même temps les préparer au combat dans le monde. Donc, si vous surprotégez vos enfants tout le temps, ils n'ont jamais de contact avec des gens qui sont dans le monde, le choc va être très violent quand ils vont se retrouver dans des grandes écoles ou ailleurs. Donc, il faut s'arranger d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'ils aient déjà, peut-être de par des cousins, toutes les familles ne sont pas forcément catholiques et traditionnelles, ou autres, de façon à déjà avoir l'habitude de combattre donc, le monde. Mais je suis tout à fait conscient que c'est pas facile. Vous voyez, je soulève un problème, mais qui doit être réel. Qui est réel. Voilà. Donc, maintenant, nous allons passer à la deuxième partie. Oui, l'abbé Leroux m'a dit que je pouvais déborder un petit peu. Donc, normalement, j'ai jusqu'à. Donc voilà. Deuxième partie, le Christ comme moyen de l'éducation. Tout d'abord, par l'exemple des parents. Une éducation fondée uniquement sur l'enseignement, même excellent, ne suffit pas. Il faut impérativement l'exemple des parents. L'éducation des enfants, surtout des petits, se fait essentiellement par osmose. Si les parents sont unis au Christ par une vie intérieure réelle, eh bien à ce moment-là, les enfants, par osmose, vont sentir cela. Et quand ils verront leur maman prier, ou leur papa prier à la messe, ou le soir, eh bien, naturellement, ils seront invités. Et donc, ils auront plus de facilité à prier. Si par contre, vous avez un enseignement qui est impeccable, mais un comportement qui ne l'est pas, à ce moment-là, dans la tête de l'enfant, on va se faire une sorte de schizophrénie. Ils ne vont pas trop comprendre ce qui se passe. Parce qu'ils vont dire, tiens, ils m'enseignent cela, mais concrètement, ils ne le font pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'ils font ou ce qu'ils disent? Ça va être un problème. Donc là, vous avez une responsabilité. Donc si vous voulez conduire les enfants au Christ, il faut que vous-même, vous puissiez vraiment être habité par le Christ. Sinon, ça va être du bricolage. Imaginez une mère pieuse, mais vraiment pieuse, hein, qui reste son chapelet tous les jours, qui fait raison, mais qui est insupportable. Oui. Donc, je vise personne. Hein. Je vois des sourires gênés. Donc, je ne saurais plus regarder personne parce que. Donc, mais ça peut arriver. Vous voyez. Donc, eh bien, c'est sûr que. Voilà, c'est un peu un contre-exemple. Un père qui ne manque pour rien sa messe du dimanche avec tous ses enfants, mais qui est profondément égoïste à la maison ou ailleurs, est également un contre-exemple. Et c'est pour ça que André Charlier était très exigeant, non seulement avec les élèves, mais également avec ses professeurs dans l'école de Maslac. Il leur demandait des vertus naturelles et surnaturelles. La loyauté, l'énergie, le courage, la pureté, la discipline, la studiosité. Donc ça, c'était, vous voyez, donc l'exemple des parents. Deuxième point, il faut citer le Christ comme modèle à imiter à vos enfants. Il faut citer le Christ comme modèle à imiter à vos enfants. Le Christ, n'est le modèle pas uniquement pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Il faut faire connaître la vie de Jésus aux enfants. Lui montrer comment il peut imiter Jésus. Par exemple, l'obéissance du Christ à son Père. Tu ne veux pas oublier, mais Jésus l'obéissait à son Père. Donc toi aussi, tu vois, tu peux faire des efforts. Essaye de faire comme Jésus. La prière de Jésus à son Père aussi. Donc là, on peut dire, l'enfant, tu vois, regarde là, Jésus prie. Ben, il faut que toi aussi, tu pries. L'amour de Jésus pour son Père, là c'est pareil. L'inviter à aimer Jésus et son Père. Troisième point, il faut que le Christ soit moyen d'éducation en donnant à l'enfant une vraie image de Dieu. Attention aux mauvaises utilisations de Dieu dans un but éducatif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas transformer Dieu comme un père fouettard, en quelque sorte. En disant, tu sais, si tu commets tel péché, le bon Dieu va t'envoyer en enfer. Alors, quelquefois ça marche, Mais c'est un mauvais moyen, ça. Parce que à long terme, vous risquez de déformer. Alors, sur le coup, vous serez peut-être tranquille. Mais après, vous risquez de vous mordre les doigts. Parce qu'il dira, moi, ta religion, mais moi, j'en ai rien à faire. Ou moi, je préfère les charismatiques, parce qu'ils sont beaucoup plus dans l'amour, dans l'ouverture, la compréhension, dans tout ça. Et alors que toi, t'es toujours, c'est l'enfer, c'est Jésus, et Dieu, il nous regarde tout le temps, il nous observe pour voir si on ne commet pas de péché. Et non, faire attention. Il faut avoir un équilibre. D'où l'importance, vous voyez, d'une réelle paternité du père de famille. Il faut que le père de famille soit l'exemple, une image, plutôt, on va dire, une image de celle de Dieu. Il faut qu'il soit, donc, un relais, en quelque sorte, qu'à travers le père, son père, un enfant puisse avoir une idée de ce qu'est le bon Dieu. Papa est tellement bon, mais il est aussi tellement juste que le bon Dieu, il doit être encore bien mieux que cela. Voyez. De même que les épouses doivent être des images de la Sainte Vierge. Donc d'où l'importance d'avoir des pères et des mères qui soient véritablement donc, dans leur vocation. Quatrième point, donc en faisant vivre le Christ dans l'enfant. Je vous rappelle, donc c'est le Christ moyen de l'éducation, en faisant vivre le Christ dans l'enfant. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi, dit saint Paul. Et donc, il faut éduquer les enfants à la prière. Il ne faut pas se contenter, et c'est un des dangers qu'on avait observé au collège, dans notre collège, au monastère, c'est qu'il y avait des enfants qui connaissaient par cœur plein de prières. Notre Père, je vous salue Marie, je vous salue Joseph, voilà, un tas de prières qu'ils avaient appris. Mais en fait, ils ne savaient pas prier avec leur cœur. On ne leur avait pas appris à prier par eux-mêmes, mais simplement à réciter des prières. Vous comprenez? Alors, bien sûr qu'il faut leur apprendre. Mais aussi, il faut leur apprendre à avoir un cœur à cœur avec le bon Dieu. Ceci est très important. Il faut que tu parles avec ton cœur. Alors, il ne s'agit pas de transformer nos enfants donc, en êtres sentimentaux et autres. Mais ils ont aussi un cœur et une intelligence. Donc la foi, là, il faudra être fort sur la foi, bien éclairé. Donc on est très fort dans le monde traditionnel hein, pour tout ce qui est de l'enseignement. Il faut le rester fort. Mais il faut aussi que les enfants apprennent à prier avec leur cœur et que le bon Dieu soit vraiment leur confident. Que quand leur arrive quelque chose, ils n'en parlent pas uniquement à leur papa, à leur maman, mais qu'ils en parlent aussi au bon Dieu et à la Sainte Vierge. Il faut aussi faire vivre la vertu de charité. Cette vertu de charité, c'est quoi finalement dans les enfants? C'est le Sacré-Cœur. C'est le cœur de Jésus qui doit venir en eux. La vertu de charité, c'est une vertu théologale infuse qui vient dans notre cœur. La foi, ça vient dans l'intelligence. Et tandis que la vertu de charité vient dans le cœur, et en fait, on met un turbo, ce que je disais tout à l'heure, dans le cœur de l'homme, qui va être capable d'aimer d'une façon nettement supérieure, parce que précisément, c'est Dieu en nous qui nous aide à l'aimer. Donc il faut faire régner dans les familles un climat de charité. Sans amour, un enfant ne peut pas vivre. Si dans vos familles, il n'y a pas un climat de charité, vos enfants, je vous le certifie, ne pousseront pas bien. Il faut qu'ils soient heureux en famille. Une dame m'avait raconté une histoire. Elle était partie en Asie dans un but humanitaire avec son mari. Et il y avait une petite asiatique orpheline qui s'était attachée à elle. Et puis, sa mission terminée, il fallait bien qu'elle rentre. Et des personnes lui ont dit, vous savez, cet enfant, elle a découvert l'amour à travers vous. Si vous repartez sans elle, elle ne se remettra jamais. Parce qu'elle n'a pas de parents. Du coup, ils l'ont adoptée. On vit véritablement par l'amour. Vous savez bien, rien que dans les couples. Quand il n'y a plus d'amour entre vous, c'est l'horreur. Vous êtes d'accord? Et pour les enfants, c'est pareil. D'où l'importance qu'ils voient aussi des parents s'aimer. Quand vous réglez vos comptes, ça arrive. Ça peut arriver. Faites-le en douceur tout d'abord. Mais jamais devant les enfants. Il faut un climat de charité. Et puis, mon expérience de prêtre, d'aumônier, de jeune, depuis maintenant une vingtaine d'années, il y a deux choses à mon avis qui me semblent fondamentales pour la jeunesse. Ça, c'est plutôt pour les adolescents. C'est l'exigence et l'amour des personnes. L'exigence, il faut être exigeant avec les enfants. Si vous n'êtes pas exigeant, ils seront déçus. Ils attendent de vous quelque chose qui les tire par le haut, qui les éduque. Et en même temps, si vous n'avez pas l'amour de l'enfant, vous allez les désespérer par votre exigence. Si vous n'avez que l'amour, il dira « Bon, papa, il est gentil, mais enfin, bon, j'obtiens tout de lui, quoi. » Ou « Cet aumônier, il est gentil, mais enfin, voilà, quoi. Il nous laisse faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'on veut. » Donc, retenez bien cela. L'exigence et l'amour réel des personnes. Mais comme disait saint François de Sales, il ne suffit pas d'être bon, encore faut-il le montrer. Et ça, je dis ça aux pères. Les mamans, souvent, faut plutôt retenir l'affection. « Oh mon petit chéri bien-aimé, oh, viens ici, que je t'aime mon chouchou. » Donc l'enfant n'en peut plus. Hein. Donc, surtout quand c'est un adolescent, « Lâche-moi maman, c'est bon. » Donc, avec le père, quelquefois, il estime qu'il faut être, voilà, il faut être viril, il faut être père. Mais oui, mais de temps en temps, il faut montrer son affection, véritablement. Certains le font naturellement, d'autres, il faut se forcer un petit peu. Donc voilà. Après, je terminerai. Gardez l'espérance. C'est la conclusion. L'éducation est toujours difficile. Car elle s'adresse à un être libre. Et donc, il y a toujours un risque d'échec, plus ou moins inexplicable. Et puis, cela vient aussi de nos propres limites, de nos déficiences. Et c'est vrai que c'est difficile hein, quand on prend conscience qu'on n'est pas une mère de famille comme il faudrait. Moi, j'ai des jeunes femmes qui me disent ça. Je suis pas une bonne mère de famille. Je dis, mais tu fais ton possible. Oui, je fais mon possible, mais j'arrive pas vraiment. Je vois bien que je m'y prends pas tout à fait comme il faut. Même pas du tout, quelquefois. Ou des pères qui ont du mal aussi. Qui se sentent pas complètement pères, quoi. C'est vrai que, on peut vivre des choses comme cela. Alors, il faut se rappeler une chose. C'est que l'espérance, ce n'est pas l'espoir. Quelquefois, il n'y a plus trop d'espoir, mais il reste toujours l'espérance. Et l'espérance, c'est la grâce divine. Elle vaut dans le couple, comme je vous l'ai dit, mais elle vaut également dans l'éducation des enfants. Rien n'est perdu. Tout ce que vous avez semé dans l'âme de vos enfants, je vous le certifie, ça ressortira un jour. Je me rappelle d'une jeune fille qui devait avoir 17 ans, une rebelle. Durant toute son adolescence, elle ne cessait que de faire des bêtises, la drogue, l'alcool. Et finalement, elle s'est retrouvée enceinte à 17 ans. Et le garçon avait 18 ans. Les parents m'ont appelé, un peu désespéré. Mon père, est-ce que vous pouvez les voir? Il est ok, très bien, envoyez-les-moi. Le problème est de savoir s'il fallait les marier ou pas. Problème délicat. Mais c'est pas ça que je veux développer. C'est la réflexion de la fille. La fille qui était rebelle, mais vraiment insupportable, qui critiquait toujours sa mère. Elle m'a dit, maintenant, je vais faire comme maman. Comme maman ? Ben oui, parce que maintenant j'attends un enfant. Mais alors ta maman, elle t'a bien éduqué ? Oui, m'a bien éduqué ma maman. Incroyable. Incroyable. Elle était ado. Mais là, ça l'a mûri sacrément, le fait d'avoir un enfant. Donc là, elle a pris 3 ans de maturité. Et là, un petit flashback, finalement, c'était quand même pas mal l'éducation que j'ai reçue. Donc tout ce que vous semez n'est jamais perdu. Sachez-le. Donc continuez à semer. Avec toutes les indications que je vous ai données, avec l'amour, avec la patience et tout ça. Mais voilà. Ce que j'ai observé aussi, c'est que précisément grâce à la grâce divine, quand je vois certains parents, quand je connais certaines situations familiales qui ne sont pas idéales, je me dis, oulala, pour les enfants, ils vont être marqués. Eh bien non. C'est pas une fatalité du tout. C'est-à-dire que dans l'éducation que vous allez donner, vous aurez des nids de poules, vous avez des trous comme ça. Et bon Dieu, il arrive, il pique comble. Et finalement, l'enfant, pfiou, il passe, et ça donne une fille super, et ou un garçon extraordinaire. Et les parents disent, mais comment on a fait ? Ben, c'est pas vous qui avez tout fait. Dieu a complété aussi. Nous ne sommes pas seuls. Le Christ est au cœur de notre éducation. Car le Christ aime vos enfants à la folie. Laissez venir à moi les petits-enfants. Et c'est ça qui est le plus important. C'est l'amour du Christ pour vos enfants. Il n'y a pas que vous qui aimez vos enfants, le Christ aussi. Donc il viendra à votre aide et n'ayez pas peur, justement, d'avoir des enfants, de bien les éduquer. De certaines situations difficiles, le Christ comblera toutes vos lacunes. Voilà, j'aimerais donc terminer sur cette note, justement, d'espoir dans l'éducation de vos enfants. Et vous dire en finale qu'il faut vraiment que le Christ soit le cœur de votre couple, mais aussi de votre famille. Profitez de ce carême. Nous sommes, on est déjà un peu avancé, milieu du carême quasiment. Donc profitez du carême pour vous poser les bonnes questions. Est-ce que le Christ est vraiment au cœur de mon couple ? Et au cœur de ma famille, au cœur de l'éducation de mes enfants. En tout cas, c'est mon souhait le plus fort, le plus sincère, et je prierai pour vous.